Bonjour, bienvenue à la deuxième saison de votre balado « Les petits caractères ». Je m'appelle Pierre Craig. J'ai animé l'émission « La facture » durant 13 ans, alors j'en connais un petit bout sur la consommation. Les avocats d'Option Consommateur, eux, en connaissent un grand bout là-dessus. Alors ensemble, on vous présente deux fois par mois une discussion sur ce qui touche de près votre vie de tous les jours. Dans notre dernier balado, on a discuté avec le lanceur d'alerte et agronome bien connu Louis Robert des dangers du fameux glyphosate, commercialisé entre autres sous le nom de Roundup. Aujourd'hui, on va parler de l'argent que nous n'avons pas, mais que nous dépensons quand même, et j'ai nommé le crédit. Avec l'augmentation des achats en ligne, il y a des fins finaux qui ont encore inventé de nouvelles patentes du genre « acheter maintenant, payer plus tard ». J'en discute avec Sylvie Bellefeuille, avocate chez Option Consommateur. Bonjour Sylvie.
Bonjour Pierre.
Sylvie, il y a une nouvelle patente, je pense que c'est le seul mot que je peux trouver pour décrire ça, une nouvelle patente de crédit à l'achat, surtout en ligne évidemment. Moi j'ai trouvé un nom, le paiement différé sans intérêt, c'est une sorte de plan de financement. Les compagnies qui font ça portent le nom PayBright. Afterpay, ça c'est assez clair, ou Sizzle ou Sizzle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ces choses-là, là, ces nouvelles formes de crédit là, qu'on nous envoie dans les pattes?
Bien, en fait, ça semble être des compagnies de financement qui sont associées avec des commerces, souvent dans le cadre d'achats en ligne. Donc, tu vas sur un commerce pour acheter des chaussures ou pour acheter des articles de décoration, par exemple, et au moment de passer à la caisse, bien là, on t'offre ce type de paiement-là, où au lieu de payer, par exemple, les nouveaux coussins sur ton sofa en un seul coup, bien là, on peut t'offrir de le payer en quelques versements, prétendument sans intérêt. C'est sûr que jamais rien de gratuit, on s'entend, mais pour le consommateur, à la base, il n'y a pas d'intérêt sur ce montant-là.
J'ai vu... 4 paiements dans certains cas. En fait, ce que j'ai compris, là, c'est pour des petits achats, 4 à 6 paiements, mais il y a moyen pour des gros achats de le faire mensuellement, puis ça peut aller jusqu'à 60 mois.
Oui, c'est ce que je comprends aussi. Les plans de financement qu'on peut retrouver dans les commerces, c'est pas nouveau, là. Quand on va dans les magasins meubles, souvent, ces magasins-là ont des ententes avec une institution financière pour leur fameux plan de financement. C'est juste que là, il s'agit d'une compagnie qu'on connaît moins, et qui offrent des plans de financement qui sont finalement à très, très, très court terme ou qui peuvent être à plus long terme.
OK. Mais comme tu disais, là, ils disent sans intérêt, mais bon, il n'y a jamais de cadeau dans la vie, là, d'une part. Et qui paye pour ça? Puis est-ce que moi, à la limite, je vais payer des intérêts si je me sers d'une de ces patentes-là?
En fait, il faut regarder les contrats de façon vraiment attentive. Règle générale, ce genre de compagnie-là, ce qu'elles ont, c'est vraiment des ententes commerciales avec le commerce. Là, donc, c'est vraiment entre elles. Donc, lorsqu'un commerce lui réfère des paiements, donc ça va être plus à ce niveau-là que le paiement va se faire.
OK, le commerçant, tu veux dire, le commerçant va payer PayBright ou truc machin, là.
Exactement. Donc, ça va être une partie, par exemple, une certaine portion de la facture que le consommateur va payer n'ira pas dans les poches du commerçant. C'est sûr qu'en bout de piste, ça finit par venir dans nos... L'argent est pris dans nos poches à nous, parce que ces frais-là, au total, ils finissent par se répertorier dans les prix de ce qu'on nous vend, qu'on utilise ou pas ce type de paiement-là.
Bon, écoute, je ne sais pas, on a regardé ça vite. Je n'ai pas fait d'achat avec ça, là. Je ne voulais pas aller jusque-là pour le bénéfice de notre conversation, mais... Est-ce que je peux, avec l'un de ces trois-là, payer avec ma carte de crédit? Puis si oui, bien, coudonc, j'en paye des intérêts finalement si je ne paye pas mon solde au bout du mois, là.
Et c'est là tout le problème, effectivement. Puis là, moi non plus, honnêtement, Pierre, je n'ai pas fait le test. Ça ne me tentait pas non plus là, d'acheter des choses dont je n'avais pas besoin juste pour l'objet du balado. Mais il faut voir avec quoi c'est en lien. Donc, si effectivement c'est en lien avec ma carte de crédit, bien là, il est possible que je paye des intérêts. Et là, la question aussi, c'est que là, on présente des plans de financement avec, par exemple, des paiements aux 2 semaines pendant, par exemple, 4 ou 6 paiements. Si je rate ces paiements-là, Là, très certainement, il va certainement y avoir des intérêts ou des pénalités qui vont s'ajouter à la facture, là.
Quand j'ai regardé, là, tu pouvais payer avec Google Play ou Apple, Google Pay ou Apple Pay, donc qui sont des applications de paiement, techniquement, à ma connaissance, sans intérêt, mais peut-être qu'à un moment donné, la carte de crédit, on n'est pas allé assez loin, il faudrait que les gens le vérifient. Mais écoute, on sait que les achats en ligne sont populaires. Avec la pandémie, là, bon, les achats en ligne sont populaires, les gens passent du temps devant leur écran. C'est pas un autre truc, ça, pour nous encourager à acheter encore plus, encore plus, encore plus, puis à tomber dans ce qu'on appelle, avec beaucoup de raisons, la surconsommation?
Ben, je pense que oui. Moi, la question que je me pose dans ce genre de situation-là, c'est que si tu n'as pas l'argent pour payer maintenant tes coussins, est-ce que ça vaut la peine de les acheter tout de suite? Est-ce que c'est si urgent que ça d'acheter des coussins ou une paire de chaussures et qu'on ne peut pas attendre un petit peu d'avoir l'argent pour faire le paiement et d'éviter justement ce genre de plan de financement-là? Et ce qui arrive aussi, c'est que pour les consommateurs, ça s'ajoute à tous les autres prêts, tous les autres plans de financement. Donc, quand on ajoute ça en bout de piste, ça peut devenir un vrai casse-tête, puis ça devient un cercle vicieux, là.
C'est assez incroyable parce que tu te rends compte que le monde marchand, il essaye de t'avoir par des conditions de financement. C'est plus les produits qu'on achète, là. À la limite, là, on n'achète pas des produits, on achète des conditions de financement. Ça n'a toujours bien pas de maudit bon sens.
Non, effectivement. Et c'est vraiment une question aussi d'attirer le consommateur qui, en temps normal, ne serait peut-être pas allé. Et ça revient peut-être sur quelque chose dont on va peut-être plus parler, qui est vraiment la planification budgétaire, qui, elle, est vraiment, je pense, le cœur de tout ce problème-là.
Ben, écoute, tu fais, toi, chez Options Consommateurs, de l'enseignement ou de la formation budgétaire, tu reçois... Ben, d'abord, première question, là. Les gens qui viennent te voir, c'est-tu juste des gens qui sont dans le trouble financièrement ou c'est des gens qui, peut-être, ont des problèmes de consommation qu'ils ne sont pas capables de contrôler?
En fait, il y a plusieurs profils. Moi, j'aimerais bien travailler avec des gens qui me disent « Ben, moi, je fais déjà un budget, j'aimerais ça m'améliorer. » Maintenant, la réalité, c'est que quand les gens viennent nous voir, généralement, c'est parce qu'ils sont dans le trouble. Donc, c'est souvent des gens qui ont des difficultés, déjà qui ont peut-être accumulé même trop de dettes et que là, sont pris avec plusieurs créanciers qui leur courent après, ils ne savent plus trop vers où se tourner. Donc, malheureusement, on est souvent, plus souvent dans le curatif que dans le préventif.
OK. Mais as-tu que des gens dépourvus de moyens ou est-ce que tu as des gens qui ont aussi des moyens mais qui ont des problèmes avec leur budget?
On a les deux. On a les
ah
deux.
Oui, vraiment?
C'est ça qui est surprenant.
Hein? Ouais.
Oui, puis moi, quand je suis arrivée chez Options Consommateurs, je pensais qu'on aurait beaucoup de clientèle qui, par exemple, n'avait pas eu beaucoup, peu scolarisé, qui n'avait pas eu beaucoup accès à l'éducation. Et à ma grande surprise, une grande partie de la clientèle qu'on dessert en matière de consultation budgétaire, c'est des gens qui ont des diplômes universitaires.
Wow.
Donc, ça n'a rien... Ça n'a rien à voir avec l'éducation au niveau académique. C'est vraiment plus, on parle vraiment ici de littératie financière. Donc, j'ai des gens qui ont vraiment toutes sortes de profils. J'ai même déjà eu dans mon bureau des gens qui étaient un médecin ou même un avocat. Donc, des gens qui ont quand même des formations universitaires plus poussées.
Donc, problème budgétaire, ce n'est pas une question de revenus. Là. Tout le monde est touché par ça. Puis, tout le monde devrait peut-être penser à se faire un budget. Puis, on va voir le pourquoi de ça. Écoute, on s'en est parlé, puis tu me parlais de quelque chose qui me faisait bien sourire, mais qui n'est pas fou, pantoute. C'est la bonne vieille méthode de nos grands-mères. Eux autres, ils mettaient de l'argent dans des enveloppes pour différents critères là, d'achat, là, tu sais, pour différentes choses à acheter dans la vie de leur ménage.
Bien, exactement. C'est parce que souvent, un des gros problèmes au niveau de l'endettement, c'est souvent en lien avec un manque de planification. Et la fameuse méthode des enveloppes permet justement de faire une certaine planification. Alors, on a par exemple une enveloppe pour les vêtements, une enveloppe pour l'épicerie, une enveloppe pour les sorties. Ce qui fait que ça nous permet, d'une part, de prévoir à l'avance combien on a les moyens de se payer chacun de ces items-là, parce qu'on va devoir mettre des priorités. Puis, bien, une fois qu'il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, bien là, je me pose une question. Est-ce que je continue de dépenser et je pige volontairement dans une autre enveloppe? Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse peut-être une concession sur une autre priorité. Ou est-ce que, bien, une fois qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, je garde ça pour le mois prochain.
Pour ceux qui n'aimeraient pas la méthode des enveloppes, évidemment, on peut se faire un budget, c'est un papier, là, s'ouvrir des comptes. Peux-tu en quelques minutes nous expliquer là, les choses qu'il faut faire?
L'idée, vraiment, c'est de faire une liste de l'ensemble de nos dépenses. Et là, quand je parle d'ensemble de nos dépenses, ça peut comprendre des grosses dépenses récurrentes qu'on peut avoir, que ce soit au niveau de l'hypothèque ou du loyer, les paiements de voiture, les choses comme ça, mais aussi les dépenses qui sont plus occasionnelles, donc les vêtements, c'est rare que les gens achètent des vêtements tous les mois, des fois ça vient plus par changement de saison, les fameux cadeaux qu'on peut donner tout au courant de l'année. Et ça, là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que les deux périodes les plus difficiles pour les familles, Pierre, c'est la rentrée scolaire et Noël. Et pourtant, ouais. Je n'ai pas de vente de punch, là, mais Noël prochain, 25 décembre.
Mais c'est vrai, c'est vraiment une période, écoute, je ne me rappelle pas des chiffres, on en a déjà parlé dans un autre balado, je pense que le montant moyen approchait les 1 000 $ par ménage, là, juste à Noël, en cadeau, là, ça approche 700 ou 800 $ si ma mémoire est bonne.
Exactement, puis des fois, on peut se retrouver dans une situation où on arrive au mois de décembre, puis on se dit, oups, Noël s'en vient, puis on ne l'a pas prévu dans notre budget. Donc, c'est là qu'on va sortir la carte de crédit, puis au niveau des statistiques, on sait que c'est aussi la période où les cartes de crédit sont les plus utilisées. Tout ça parce qu'on ne l'a pas planifié. Nos enfants, nos conjoints ne changent pas non plus de date de fête dans le courant de l'année. On peut changer de conjoint, ça c'est une autre histoire. Mais n'empêche que ce sont des dépenses qui sont prévisibles. Ce n'est pas des surprises. Alors, ouais. Ce qu'on va faire dans le fond, c'est que quand on fait notre budget, on va faire justement la liste de toutes ces dépenses qui sont occasionnelles. On va les identifier avec une étoile. Donc, on les calcule sur une base mensuelle. Donc, on fait le total, par exemple, de tous les cadeaux qu'on achète dans une année, ou le total de tout ce qu'on prévoit acheter pour les vêtements. On va diviser ça par 12 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cet argent-là dans un petit compte à part. Parce que c'est sûr que si on garde l'argent à la même place qu'on fait nos dépenses courantes, l'argent va disparaître puis quand la dépense va arriver, on n'aura pas mis l'argent de côté.
L'idée, c'est okay, vraiment... Donc, ouvrir un deuxième compte pour des dépenses particulières, récurrentes, là, et relativement importantes.
Exactement. Donc, on peut faire ça. Et comme ça, bien, quand arrive la dépense, bien là, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on a déjà mis l'argent de côté.
L'autre façon de faire, là, des gens qui ont des dettes, là, puis que ça va pas bien, là, ben c'est de combler le manque de revenus par le crédit. Puis ça, c'est franchement pas l'idée du siècle.
C'est pas l'idée du siècle, mais c'est malheureusement un réflexe. Puis souvent, le profil qu'on peut retrouver aussi dans nos bureaux, ce sont des gens qui avaient accès, qui avaient des bons emplois, avaient des bons revenus, accès à du crédit, des marges de crédit, par exemple, à une certaine époque. Parce qu'ils se font rattraper par la vie, des fois, des malchances, ça peut arriver à tout le monde. Cette personne-là n'a plus d'emploi, mais souvent, les gens n'ont pas le réflexe de diminuer leurs habitudes de vie en même temps que le revenu diminue. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont prendre la marge de crédit disponible et vont utiliser ça pour combler le manque de revenus. Et là, c'est là que ça devient dangereux parce que si on fait ça pendant une très, très courte période parce qu'on est en transition, c'est une chose. Mais si la situation perdure, bien, il arrive un moment où on va topper notre marge de crédit, comme on dit. Et à ce moment-là, rien ne va plus, là.
Donc, je voudrais qu'on s'explique parce que, bon, une carte de crédit, tout le monde en a une, il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont pas mal plus que ça. Parce que, tu sais, on peut les accumuler, puis, oups, à un moment donné, on s'en aperçoit pas, puis on en a trop, on en a plusieurs. Moi, je n'en ai qu'une seule et je n'en aurai jamais qu'une seule. Bon. Mais juste là, pour qu'on se rappelle précisément, c'est comment ça marche précisément une carte de crédit, Sylvie?
Disons, puis là, je vais mettre des chiffres, c'est rare que je mette ça dans un balado, mais disons qu'on va faire un achat avec une toute nouvelle carte de, disons, 1 000 $. Je vais m'acheter une belle grosse télé là, avec ma nouvelle carte de crédit. Je ne fais pas d'autres achats sur ma carte. Je vais attendre de recevoir mon relevé. Il faut savoir que la carte, à ce moment-là, a ce qu'on appelle un délai de grâce. C'est-à-dire quand le moment où on m'envoie le relevé puis le moment du paiement, il doit y avoir un minimum de 21 jours qui fait en sorte que si je paie la somme totale du montant, je ne paie aucun intérêt. Et ce que prévoit autant le contrat que la loi, c'est que si et seulement si je fais le paiement complet de ma carte, je ne paye aucun intérêt. Par contre, au niveau de mon obligation contractuelle, je ne suis pas obligée de payer ma télé au complet. Au niveau de si je veux garder, dans le fond, des bonnes relations avec mon institution financière, ce que je dois faire, c'est faire au moins le paiement minimum. Donc, actuellement, le paiement minimum sur les cartes de crédit ne peut pas être moindre que de 3 %. Donc, on va me demander un paiement d'à peu près 30 $ et ma banque va être bien contente parce que là, elle va se faire un plaisir de me facturer des intérêts. Et on se rappelle que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit, c'est à peu près 20 %.
C'est 20 %, c'est gigantesque, alors que les taux directeurs de la Banque du Canada sont à je ne sais pas quoi, 0,25 en ce moment, une affaire de même, puis qu'on peut obtenir du crédit à 3 ou 4 %. Eux autres, c'est 20, puis ça monte même, j'en ai vu jusqu'à 22, et toi aussi, Sylvie. Hein?
Oui, tout à fait. Et ça, c'est seulement sur les... Là, on parle seulement des achats, là. On ne parle pas des avances de fonds, là. Donc, j'ai fait un achat. Disons que, pour reprendre mon exemple, j'ai acheté donc ma télé à 1000 $. Je vais faire un gros paiement, mais je ne la paierai pas au complet. Ma carte, disons que je vais payer 900 $. Souvent, les gens vont dire, « OK, j'ai fait un paiement de 900 $. Je n'ai pas fait mon paiement complet, donc on va me facturer des intérêts. » Et là, la grosse question, c'est sur quoi est-ce que les intérêts seront payés, seront facturés? Est-ce que c'est sur le 1000 $ ou c'est sur le 100 $ qui reste? Et là, beaucoup de gens vont me dire, « Ben, voyons, Sylvie, c'est sur le 100 $ qui reste. » Ça, c'est la réponse logique. Le problème, c'est qu'un contrat, c'est pas nécessairement logique. Il faut se rappeler que la condition du congé d'intérêt s'applique si et seulement si je fais mon paiement intégral. Donc, à partir du moment où je fais un paiement partiel, ici, il manque 100 $, ben, ce que mon institution va faire, c'est que l'institution financière va faire, c'est qu'elle va me charger des intérêts sur le 1000 $ donc le total de ma carte, rétroactivement à ma date où j'ai fait mon achat. Alors, c'est pas pour rien qu'il
banque. Même s'il reste une pièce à payer, hein, s'il reste un $ à payer, tu vas payer la totalité, les intérêts sur la totalité du montant. Même si tu as payé 998 $, on va dire, soyons généreux, il reste 2 $ à payer, tu payes des intérêts sur 1000. C'est ça. Ça n'a pas d'allure, mais c'est comme ça. Parce que c'est peut-être pas logique, mais le but de ces contrats-là, c'est de trouver le fond de nos poches. En fait, le secteur des soldes impayés des cartes de crédit est immensément profitable pour les banques canadiennes. J'ai les chiffres, là, 15 milliards de dollars de profit par les cartes de crédit, et ça, c'est les soldes impayés. Et c'est 15 milliards sur 45 ou 46 milliards de profit total, de revenu total des banques. Écoute, c'est le tiers, c'est gigantesque. Puis ça, c'est parce qu'on ne paye pas nos soldes à la fin du mois. On ne paye pas le solde entier à la fin du mois. Et il y a un outil de calcul de l'Office de la protection du consommateur dont je voudrais qu'on parle, parce qu'il nous permet justement, si on ne paye pas le solde complet, de calculer très facilement, on a juste à pitonner nos chiffres, là, de calculer combien ça va nous coûter au final. Hein?
Exactement. Et c'est là qu'on peut voir que les chiffres peuvent être très, très surprenants. Justement, pour reprendre l'exemple de la télévision à 1000 $, bien, si je fais seulement le paiement minimum, on va voir assez rapidement que si je ne fais que le paiement minimum sur ma carte et je ne fais aucun autre achat, et là, c'est l'autre question aussi, hein, parce que souvent, c'est pas juste un achat qu'on fait sur une carte, mais supposons que je remets ma carte de crédit, je la mets dans un verre d'eau, je la mets dans le congélo parce que je ne veux plus l'utiliser. On va se rendre compte que ça va me prendre au-delà de 10 ans pour rembourser mon téléviseur et les intérêts vont représenter au-delà de 800 ou 900 $, ce qui fait que, grosso modo, là, ça va me coûter pratiquement le double. Et l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que mon téléviseur va fonctionner encore dans 10 ans? Ça, c'est...
On se disait, Sylvie, puis je veux revenir là-dessus parce que ça m'apparaît bien important, la facilité d'accès au crédit conditionne nos habitudes d'achat, puis probablement plus que nos besoins réels. Et Option consommateur a justement voulu travailler, et puis ça fait longtemps, là, je pense que ça a commencé, tu me corrigeras si je me trompe, en 2009. Vous avez intenté un recours collectif dans ce sujet-là. Peux-tu m'expliquer ça, là? C'était quoi le but du recours collectif, puis qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, le recours qu'on avait fait en 2009, ça visait le magasin Léon. Ça visait deux éléments. Il y avait le fait qu'on disait ne payez pas un sou avant telle date, et on se rendait compte que les plans de financement, finalement, coûtaient 21 $ par année. Donc, est-ce que c'est pas un sou, c'est 21 $ par année? Donc, il y avait un problème. Et l'autre problème, c'était la fameuse publicité. Donc, à la télé, on en voyait beaucoup de publicité. Et là, selon la période de l'année, il y avait beaucoup d'imagination sur les noms de campagne, là, que je ne nommerai pas, mais je pense que pas mal tout le monde s'en souvient.
Ben, c'était le genre « acheter maintenant, payer plus tard », là,
absolument,
quelque chose comme ça.
Absolument. Ce qui arrive, c'est que la loi sur la protection du consommateur, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas, à travers un message publicitaire sur un bien, donner de l'information sur les modalités de crédit autrement que par une certaine façon qui est prévue par règlement, c'est-à-dire soit dire crédit disponible ou mettre une image de carte de crédit. On ne peut pas dire, par exemple, je vous vends un sofa ou un réfrigérateur à X dollars par mois ou payer sans payer, acheter maintenant et payer sans intérêt jusqu'à telle période ou commencer vos paiements seulement dans 6 mois.
Ce que je comprends bien, là, Sylvie, c'est que tu as le droit d'annoncer ton produit. Bon, parlons de Léon, ils ont le droit d'annoncer leur meuble. Par contre, ils peuvent dire crédit disponible en même annonce, mais juste ça. Ils n'ont pas juste le droit ça. De décrire le crédit, payer tant de versements, patati patata. Par contre, exactement. Ils pourraient décider de faire une annonce essentiellement sur le crédit. Ça, ils auraient le droit?
Ils auraient le droit de le faire en autant qu'on n'incite pas à acheter un bien. Donc, si on fait juste okay. dire... Donc, c'est vraiment soit qu'on fait de la pub sur le financement, soit qu'on en fait sur les biens, mais pas les deux en même temps. Et c'est ça qui était reproché. Donc, on s'est battu devant les tribunaux pour cette interprétation-là de la loi. On a gagné en première instance. Il y a eu un délai, il y a eu une demande en appel. On a gagné en appel sur la question, justement, de l'interprétation. Et malgré tout ça, les pratiques ont continué. Et pas juste Léon, là, il y avait d'autres magasins aussi.
Quels autres magasins là, qui faisaient
ben,
ça?
En fait, on a fait une deuxième action collective juste sur la question pour faire cesser ces pratiques-là qui visaient justement Léon Brick et qui visaient aussi d'autres entreprises là, qui étaient Economax, Bro Martineau et Ameublement Tanguay. La bonne nouvelle, c'est que cette action collective-là, là, on vient là, de la régler en partie. Là, on attend l'approbation de la Cour, mais on a réussi à avoir une entente hors cour. Donc, si le juge accepte, on parle ici d'une entente de 1,4 million, grosso modo. Non seulement ça, mais ce qui est pour nous le plus important, c'est qu'avant même de s'asseoir pour négocier avec ces entreprises-là, on leur a dit « ben, il faut changer les pratiques ». Et les entreprises ont fait le ménage dans les pratiques. Alors maintenant, si tu regardes à la télé maintenant, normalement, t'en vois plus de ces pubs-là des acheter maintenant, payer plus tard.
Mais moi, ce qui m'allume, là, ce qui me fait comprendre à quel point le crédit a de l'importance dans la consommation, c'est que pendant tout, puis écoute, on parle de 2009, là, ça fait quoi? Ça fait 11-12 ans de ça. Ils perdaient. Il y avait des étapes judiciaires où ils perdaient, mais ils continuaient à maintenir leurs pratiques. Écoute, ça devait être terriblement payant de continuer à maintenir ces pratiques-là. Puis je voudrais que tu me dises, parce qu'il y a un patron de chez Léon qui est venu témoigner en cours, et ça, là, son témoignage est absolument extraordinaire parce qu'il nous renseigne là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit?
Bien, ce qu'il nous a dit en cours, c'est que c'est vraiment un modèle d'affaires. C'était ça qui était l'objectif, c'est d'attirer les clients qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, on visait des clientèles à moyen revenu, mais plus la base des moyens revenus pour avoir des plans de financement. Et dans les faits, la majorité des clients qui achetaient des meubles à ce moment-là prenaient ces plans de financement-là. Et là, les fameux plans de financement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement, ces plans de financement-là sans frais, dans le fond, ce qu'on nous offre, c'est par exemple d'acheter un frigo maintenant et de le payer seulement, disons, dans un an. Pendant toute cette période-là, il n'y a aucun intérêt. Par contre, la condition, c'est qu'il faut que dans un an, je paye mon frigo en entier. Sinon, ben là, à ce moment-là, ça va être associé à un autre plan de financement qui va être essentiellement une carte de crédit où là, on va me charger des intérêts à peu près à 20% par année.
Écoute, je veux juste revenir une petite affaire là, sur le budget, parce que évidemment, on est dans ce monde-là. Là. On est dans un monde où est-ce qu'il faut être assez intelligent pour prévoir l'argent qu'on a et l'argent qu'on a de disponible. Mais tout le monde, quand on pense à se faire un budget, c'est « Ah, wesh, ça me tente-tu, moi, de faire une affaire de même? » Les aspects positifs, parce que, écoute, je ne veux pas raconter ma vie, là, mais il m'est arrivé d'être un peu dans le trou financièrement, hein, parce que là, je suis à la retraite, là, puis je n'ai pas les mêmes revenus, et je souffrais, et j'ai vendu une propriété que j'avais, et je suis heureux depuis ce temps-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que le crédit, ça fait l'endettement, ça fait mal. Alors, je reviens à l'affaire du budget. Les aspects positifs d'un budget, là, pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait vendre nous autres? Là? Imaginons qu'on est les Léons du budget ou les briques du budget. Comment est-ce qu'on pourrait vendre l'idée du budget aux gens qui nous écoutent?
Bien, d'une part, comme tu l'as souligné, Pierre, avoir des problèmes financiers, c'est lourd. Puis on le voit, les gens, quand ils rentrent dans notre bureau, là, ils viennent, ils sont arqués, ils ont le dos qui est pesant sur les épaules presque physiquement, là. Les problèmes d'argent, on ne se le cachera pas, ça crée des problèmes dans les ménages. Combien de personnes se séparent pour des questions d'argent? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très lourd. Alors, pouvoir faire du ménage là-dedans, ça nous permet plusieurs choses intéressantes. D'une part, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on fait réellement avec notre argent. Pierre, ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir l'impression que tu avais un 20$ dans ton portefeuille, puis tu es arrivé à un moment donné, tu dis, oh, il est rendu où?
Plusieurs 20$.
Donc, c'est le genre de choses, des fois, on ne se rend pas compte de nos habitudes, puis des fois, ça peut être autant des petites habitudes que des plus grandes. L'exemple du café, souvent, c'est celui que je donne. Des fois, les gens vont dire, bon, un café, c'est, ça me coûte pas cher. OK, pas cher combien? Ah, oh, 1,5 à 2$. OK, combien de fois par semaine? Puis là, quand on additionne tout ça, bien là, on se rend compte que des fois, nos habitudes nous coûtent plus cher qu'on le pense.
Donc, oui, ça fait des centaines de dollars. Là. Le 2$ une fois par jour, là, 5 fois, ça fait 10 par semaine, multiplié par 52, ça fait 520 par année. Pas compliqué. Fait que tu veux aller faire un tour dans le sud, tu as 520$. Fais ton café chez vous, il va être meilleur de toute façon.
Exactement. Donc, l'idée, je ne suis pas en train de dire que les gens ne doivent pas s'acheter un café. Là. C'est toujours une question de priorité. Mais l'objet, dans le fond de tout ça, c'est que ça nous permet de voir combien nous coûtent nos habitudes pour pouvoir en avoir plus pour notre argent. Quand on voit où on dépense, bien là, à ce moment-là, on peut peut-être se poser des questions et dire, bien, OK, il y a des choses pour moi qui sont plus importantes, donc ça permet de faire des projets aussi. Donc, si par exemple,
oui, c'est ça.
On veut avoir un projet, ça peut être un peu n'importe quoi, ça peut être un retour aux études, ça peut être un voyage, ça peut être l'achat d'une maison, bien, de se faire un budget et de dire, bien, j'ai un objectif précis, je me donne un certain temps pour le faire et pour le réaliser, bien, il faut que je mette un certain montant par mois pour mon projet. C'est quelque chose qui est super valorisant et qui va vraiment nous inciter à respecter nos moyens.
Par contre, notre endettement, lui, ça crée des gagnants.
Oui, et les gagnants, on les a nommés tantôt. C'est les institutions financières qui, elles, font énormément d'argent avec nos mauvaises habitudes. C'est une chose de devoir s'endetter pour certains gros achats. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui peuvent s'acheter une maison sans faire un prêt hypothécaire. Mais pour des achats courants, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'endetter? Il y a beaucoup de choses qu'on peut planifier dans notre budget pour éviter de s'endetter, justement avec une gestion qui va être plus saine. Et l'autre question aussi, puis ça c'est quelque chose qui est vraiment important dans tout ça, bien, c'est de faire un petit peu un ménage aussi. Il y a deux choses, hein? Il y a nos besoins, il y a nos désirs. Et des fois, ces éléments-là peuvent être un peu, les gens des fois ont tendance à les confondre. Et en faisant un budget, ça nous amène vraiment à faire nos priorités. Puis souvent, quand je dis que ça peut être confondant, là, si on dit manger, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un besoin. Manger du filet mignon et boire du champagne à toutes les semaines, est-ce que c'est un besoin? Pas certain.
Sylvie, je veux pas qu'on soit moralisateur, mais peut-être que ça vaut la peine de dessiner un tableau qui peut peut-être, dans certains cas, devenir sombre, parce que quand on s'en est parlé ensemble, avant de faire ça, là, c'est le balado qu'on fait, tu m'as dit « je t'inquiète pour l'avenir, moi ».
Ben oui, je suis inquiète parce que le taux d'endettement puis les statistiques sont quand même assez parlantes. Là, quand on regarde le taux d'endettement, il est autour de 170% du revenu disponible, là. C'est énorme. Ça veut dire qu'en moyenne, au Canada, on doit 1,70 $ pour chaque dollar net qu'on gagne. Certains vont dire qu'il ne faut pas paniquer tout de suite parce que ça comprend les hypothèques qui sont, entre guillemets, une bonne dette. Mais le taux d'endettement, il est très élevé. Avec la pandémie, on a eu quand même un petit break parce qu'il y a eu... Il y a eu plusieurs institutions financières, par contre, qui ont dit, bien, si vous êtes dans le trouble, on va alléger un peu certaines modalités de paiement. Il y a eu toutes les prestations qui ont été offertes par le gouvernement pour aider les gens aussi. Mais maintenant, toutes ces mesures-là vont commencer à tomber. Et les gens qui étaient dans le trouble avant la pandémie, il y en a peut-être un certain nombre qui vont se retrouver encore dans le trouble. Et là, on va se retrouver avec des gens qui ont des difficultés plus sérieuses en matière d'endettement, là.
Alors, écoutez Sylvie Bellefeuille, faites-vous un budget, c'est ça la solution. Vous aurez l'esprit plus tranquille. Je vous jure que je parle en toute connaissance de cause. Ça m'est arrivé, j'en ai souffert. Faites ça, écoutez les conseils de Sylvie, puis ça devrait peut-être mieux aller. Sylvie, un grand merci.
Ça m'a fait plaisir, Pierre.
Jusqu'à quel point sommes-nous capables de distinguer nos besoins réels de nos désirs, alimentés, eux, par la machine à crédit? Vous savez, en ce moment, vous et moi avons une dette moyenne de 1,72 $ pour chaque dollar que nous gagnons. Et si pour augmenter cette dette, tout ce qu'il suffit de faire, c'est quelques clics dans le confort de notre chez-soi, oh, ça va nous prendre de la volonté et, ben oui, un bon budget. Et vous savez, question budget, il faut voir le verre à moitié plein. Un budget, on l'a dit, ça sert aussi à réaliser des rêves. Allez, à la prochaine.